De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous?
Ravie de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Bonsoir, les auditeurs de Voice of Indonesia. Voici le journal d'aujourd'hui. On commence par l'Indonésie invite 22 pays à investir en Indonésie. La plus de milliards de personnes se sont rassemblées à Londres pour marquer le 75e anniversaire de la NAPBA. Le ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Indonésie a salué le retour des équipes de Wushu et d'athlétisme de SEA Games. Le ministre du Commerce visite l'Égypte pour explorer les marchés d'exportation potentiels. Et l'UNICEF affirme que 450 000 enfants ont été forcés de quitter leur maison en raison de la guerre au Soudan. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Au cours d'une visite d'une journée à Stockholm, Suède, le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec 22 ministres des Affaires étrangères ou ministres équivalents des Affaires étrangères qui ont également participé au forum de niveau ministériel Indo-Pacifique samedi dernier. Dans une déclaration reçue à Jakarta dimanche, le ministre des Affaires étrangères, Retno, a déclaré que plusieurs questions avaient été discutées, notamment le soutien des ministres des Affaires étrangères à la présidence indonésienne de l'ASEAN et à la mise en œuvre des 5 points de consensus pour la paix au Myanmar. Une autre chose qui a également été discutée était la coopération bilatérale de l'Indonésie avec chaque pays. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a invité les pays à investir en Indonésie, notamment dans le secteur de l'énergie verte, les véhicules électriques et aussi le développement de la capitale de l'archipel. Je demande également un soutien pour l'industrie navale qui est promue par le gouvernement indonésien. Je demande également leur soutien en ce qui concerne l'importance d'éliminer les politiques discriminatoires, y compris celles de l'Union européenne, et l'achèvement immédiat des négociations de CEPA entre l'Indonésie et l'Union européenne. En outre, pour encourager la coopération commerciale, le ministre Retno a également invité les pays à participer à l'exposition commerciale d'Indonésie, au Forum d'affaires Indonésie-Europe et au Forum d'affaires Indonésie-Europe centrale et orientale. En outre, l'Indonésie a également demandé le soutien des pays pour plusieurs nominations pour l'Indonésie, y compris pour le poste de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies 2024 à 2026 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies 2029 à 2030. Lors de sa rencontre avec le ministre d'État pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Organisation des Nations Unies, Royaume-Uni, Lord Tariq Ahmed, Retno Marsudi a spécifiquement discuté de la question de l'Afghanistan. Selon lui, le Royaume-Uni a exprimé sa gratitude pour le rôle actif de l'Indonésie en Afghanistan, notamment sur la question de l'éducation des femmes en Afghanistan. Des milliards de personnes se sont rassemblées à Londres samedi pour commémorer le 75e anniversaire de la Nakba, au jour de la désolation qui est commémoré par les Palestiniens chaque 15 mai, en mémoire de l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens de leur maison et de leur terre en 1948 après la fondation d'Israël. La manifestation intitulée Nakba 75 mettre fin à l'apartheid, mettre fin à l'occupation, était organisée pour montrer la solidarité et exiger une action pour mettre fin au soutien anglais au système oppressif d'Israël. L'événement était organisé par le Forum anglo-palestinien, les Amis d'Al-Aqsa, la campagne de la solidarité de la Palestine et l'Association des musulmans anglais. La citation d'Antara dimanche, dans sa déclaration, la campagne de solidarité de la Palestine a déclaré que le peuple palestinien avait besoin de soutien maintenant, plus que jamais. Le ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Indonésie, Dito Aryo Tejo, a salué le retour de l'équipe de Wushu et d'athlétisme qui s'est produite au SEA Games 2023 à l'aéroport Soekarno-Hatta, Tangerang, samedi soir. Dans ses remarques, le ministre a souligné que le succès obtenu par l'équipe de Wushu au SEA Games était un objectif intermédiaire, car l'objectif le plus important était de réaliser des exploits aux Jeux asiatiques, même au monde. L'Indonésie est devenue championne du classement général de Wushu grâce à une collection de 6 médailles d'or, 6 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Quant à l'athlétisme, le ministre Dito a donné sa plus grande appréciation car ce sport a su dépasser l'objectif initial qui leur était assigné. Au SEA Games 2023, l'équipe athlétique indonésienne a pu remporter 7 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 9 médailles de bronze. Statistiquement, ce nombre est en bond en avant par rapport au SEA Games 2021 lorsque l'Indonésie n'a pu en obtenir que 2 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Le ministre du Commerce, Zulkifli Hassan, visite le Caire, Égypte, samedi, pour travailler sur les marchés potentiels d'exportation dans les pays non traditionnels, notamment dans la région du continent africain. Dans une déclaration écrite samedi, Zulkifli Hassan a déclaré que l'Égypte est un marché potentiel non traditionnel sur lequel il faut travailler de manière intensive. Par conséquent, il rencontrera un certain nombre de parties et renforcera la coopération commerciale avec les parties prenantes en Égypte. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance, ou UNICEF, a déclaré qu'au moins 450 000 enfants au Soudan ont été forcés de quitter leur maison à cause des combats en cours. La citation d'Antara samedi, les semaines de conflit entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire Rapid Support Force, ou RSF, ont fait fuir 82 000 enfants vers le pays voisin et environ 368 000 autres enfants ont été déplacés à l'intérieur du pays. La directrice générale de l'UNICEF, Catherine Roussel, a déclaré que le conflit brutal au Soudan a fait des ravages parmi les enfants du pays. Même, des milliers d'enfants ont vécu des événements très traumatisants où on était chassé de chez eux en quête de sécurité. Entre-temps, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que plus de 164 000 Soudanais ont cherché refuge en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie, en Libye et au Soudan du Sud depuis l'éclatement des violences le 15 avril 2023. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Bonsoir à tous, voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le 42e sommet de l'ASEAN s'est clôturé par un certain nombre d'accords ». Le président Joko Widodo a fait part d'un certain nombre de résultats obtenus dans la mise en œuvre du 42e sommet de l'ASEAN qui s'est tenu les 10 et 11 mai 2023 à Labuan Bajo, à la province de Nusa Tenggara de l'Est. L'un d'eux est lié aux intérêts du peuple qui sont la principale préoccupation des dirigeants de l'ASEAN, notamment la protection des travailleurs migrants et des victimes de la traite des êtres humains. Devant les journalistes au centre des médias jeudi, le président a invité les pays de l'ASEAN à prendre des mesures fermes contre les auteurs de crimes de traite des personnes. Quant au Myanmar, le président a souligné que les pays de l'ASEAN étaient convenus de ne pas tolérer d'atteinte aux valeurs humaines. Non seulement cela, l'ASEAN a également accepté de s'engager avec toutes les parties prenantes conformément au mandat des 5 points d'accord. Selon lui, l'inclusivité doit être fermement maintenue par l'ASEAN car la crédibilité de l'ASEAN est en jeu. Le président Joko Widodo a également déclaré que l'Indonésie ouvre des possibilités de communication avec quiconque dans le cadre d'intérêts humanitaires. Cependant, le président a souligné qu'adopter une approche ne signifie pas reconnaître car l'unité de l'ASEAN est la chose principale afin qu'elle ne soit pas facilement divisée par d'autres. Selon lui, aucune partie à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ASEAN ne bénéficie du conflit interne au Myanmar. Il a également souligné l'importance d'arrêter la violence et de protéger la population. Enfin, concernant le renforcement de la coopération économique, le président Joko Widodo a expliqué que l'ASEAN avait accepté de construire un écosystème de voitures électriques et de devenir une partie importante de la chaîne d'approvisionnement mondiale, faisant ainsi de l'industrie navale une clé. En outre, les pays de l'ASEAN ont également convenu de renforcer la mise en œuvre des transactions en monnaie locale et la connectivité des paiements numériques entre les pays. Selon lui, cela est conforme à l'objectif de centralité de l'ASEAN et fait partie des efforts visant à renforcer et à rendre l'ASEAN plus indépendant. À cette occasion, le président s'est félicité de la mise en œuvre du 42e sommet de l'ASEAN qui s'est déroulé sans heurts et a donné de bons résultats. À travers le 42e sommet de l'ASEAN, l'Indonésie souhaite voir une ASEAN forte, capable de relever les défis, réactive aux dynamiques et jouant toujours un rôle central dans la région. En outre, le président a également déclaré que l'ASEAN était une famille qui avait des liens forts et était unie vers le même objectif, à savoir faire de l'ASEAN un centre de croissance et une région pacifique stable et prospère. C'est tout la mise au point de la semaine.
Oh.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 14 mai. On commence par le 14 mai 1955, la signature du pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie était une alliance de défense des pays communistes socialistes d'Europe de l'Est. Le pacte de Varsovie a été formé le 14 mai 1955 lors d'une réunion des pays du bloc de l'Est à Varsovie en Pologne. La formation du pacte de Varsovie est indissociable de la décision des États-Unis et de leurs alliés d'établir une alliance de défense de l'OTAN. Le contexte de la formation du pacte de Varsovie était l'inquiétude de l'Union soviétique et des pays du bloc de l'Est concernant l'existence de l'OTAN qui pouvait à tout moment devenir une menace pour les pays du bloc de l'Est. Le pacte de Varsovie a été rédigé par le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, Nikita Khrushchev, en 1955 et signé à Varsovie le 14 mai 1955. Ce pacte a expiré le 31 mars 1991 et a été officiellement résilié lors d'une réunion à Prague le 1er juillet 1991. Le 14 mai 1962, la tentative d'assassinat du président Sukarno. Le 14 mai 1962, une tentative d'assassinat a eu lieu contre Bung Karno. L'incident s'est produit alors que le président Sukarno célébrait la prière de l'Eid al-Adha sur la pelouse entre le palais d'État et le palais Merdeka à Jakarta. Quelqu'un a soudainement tiré une arme à feu sur Bung Karno alors qu'il se prosternait. Le tireur était à 4 rangs derrière Bung Karno. Le tir n'a pas du tout touché le corps de Bung Karno. On sait que les auteurs de la fusillade étaient 3 personnes, à savoir Sanusi, Kamil et Jaya Permana, qui étaient tous membres de Darul Islam ou Armée Islamique Indonésienne. Puis le 14 mai 1984, la naissance de Mark Zuckerberg. Mark Elliott Zuckerberg est programmeur informatique et entrepreneur Internet. Il est connu pour avoir créé le site de réseautage social Facebook avec ses amis. Facebook a été fondé en tant qu'entreprise privée en 2004 par Zuckerberg et ses camarades de classe Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin et Chris Hughes alors qu'ils étaient étudiants à l'université de Harvard. En 2010, Zuckerberg a été nommé personnalité de l'année 2010 par le magazine Time. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
aku ingin bersamamu. Ku melihat dalam cangkir kopi pekat, bayangmu mengoyak, menatap, memburu ku kemana ku bergerak. Kenangan dirimu yang pernah terlupakan kini gentayangan, yo, di dalam ruang pikiran dan hati, dari sini sampai parkiran, dari ujung malam sampai siang gedombang, membawaku ke dalam keinginan untuk mengatakan yang tak sempat terucapkan.
Aku di sini terus menanti kita, bukan cerita biasa.
Kita tahu entah mengapa terlalu lama terbungkam. Bagaimana kita bisa saling terdiam, walau tanpa kata, walau tanpa suara. Namun kita bagai punya lagu yang sama, kita pernah menyanyikan kidung kehidupan. Kita juga pernah tertawakan kebodohan. Selalu terasa indah bila kita bersama, selalu terasa nyaman bila kita berdua. Ku ingin melihat kau datang mendekat. Hidup ini sebuah pilihan, ku memilih cinta ini takkan padam. Walau harus berulang kali, ku rasakan sejuta rasa tak terucapkan.
Chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulé 10 pays étrangers participent au championnat du monde de surf à Krui. Le championnat du monde de surf aura lieu à Krui Lampung de l'Ouest et sera intitulé International Surfing Krui Pro QS 5000 2023. Le comité cible la participation d'environ 200 surfeurs du pays et de l'étranger. L'événement international de surf Krui Pro 2023 se tiendra à la région de la côte ouest du 12 au 18 juin 2023. Le chef de l'Office de tourisme de Lampung de l'Ouest, Inyoman Setiawan, a déclaré jeudi qu'il y a déjà 215 participants qui se sont inscrits au championnat international de surf Cui Pro QS 5000 2023. Selon le plan, l'événement aura lieu à la plage de Tanjung Setia sur la côte ouest à Lampung. Il a déclaré que sur 215 surfeurs, 11 pays venaient de l'étranger et s'étaient déjà inscrits pour participer à l'événement de Surf World Surfing League Cui Pro 2023 sur la côte ouest. Ils viennent d'Australie, du Japon, d'Italie, d'Afrique du Sud, du Brésil, du Pérou, des États-Unis, de France, d'Angleterre, d'Espagne et d'Indonésie en tant qu'hôte. Inyoman Setiawan a déclaré que sur les 215 participants, 4 catégories participeraient au Cui Pro de cette année, à savoir le QS 5000 hommes, le QS 5000 femmes, les hommes juniors et les femmes juniors. Selon Inyoman Setiawan, il y a actuellement 81 personnes qui se sont inscrites au QS 5000 hommes, 56 inscrits au QS 5000 femmes. Ce nombre n'a pas encore atteint l'objectif. Mais pour les hommes juniors, 40 personnes, et les femmes juniors, 38 inscrits, ont dépassé l'objectif. Il espère que le moment du championnat international de surf pourra être un lieu pour présenter le tourisme de Lampung au monde, en particulier le tourisme de la côte ouest. Newman espère également que la mise en œuvre de Cui Pro 2023 sera encore meilleure que la mise en œuvre en 2022. C'est tout mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Jakarta ramai, hatiku sepi. aku biru. Banyak hal baru, tapi ku lesu. Jelaskanlah.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, Labuan Bajo Manggarai de l'Ouest dans la province de Nusa Tenggara de l'Est est une destination touristique visitée par de nombreux touristes locaux et étrangers. Après avoir profité de divers sites touristiques intéressants à Labuan Bajo, les touristes peuvent ramener chez eux des souvenirs typiques de Labuan Bajo. L'un d'eux est le pan kompiang, ou également connu sous le nom de kompiang longa. Ce pan de forme ronde ou ovale n'est pas seulement un souvenir typique de Labuan Bajo, mais aussi du district de Manggarai. Kompiang a une texture plutôt dure et une couleur jaune brunâtre comme le pain en général. Le dessus est parsemé de graines de sésame. Il est donc aussi communément appelé kompiang longa. Longa, en langue manggarai, signifie sésame. Kompiang est une adaptation de kompiang qui a été faite en Chine dans les temps anciens. La première fois que ce gâteau kompiang est apparu, c'était à Rutin, la capitale du district de Manggarai, en 1983. Même le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Sandiaga Uno, a été très impressionné par le goût du kompiang la première fois qu'il l'a goûté. La fabrication du kompiang se fait toujours traditionnellement car il est cuit au feu, prend jusqu'à 12 heures et n'utilise que les ingrédients de base de la farine de blé, de l'eau, du sucre, du sel, de l'huile et du beurre. De manière unique, kompiang est fabriqué sans œuf ni lait. Le kompiang a trois saveurs, à savoir le kompiang fourré à la viande, sucré et original. Le prix varie également, autour de 20 000 rupiahs par boîte contenant 20 kompiang. Ce kompiang se conserve 2 jours à température ambiante, une semaine au réfrigérateur et un mois au congélateur. C'est pourquoi le kompiang convient très bien comme souvenir. Parce que sa texture a tendance à être plus dure que le pain, kompiang est plus adapté pour être trempé dans du thé ou du café. Bon, chers auditeurs, si vous souhaitez apporter des souvenirs à vos proches, le pan kompiang est le bon choix. Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, voici l'Indonésie en couleur dont le titre est Java Balloon Attraction. De garder et essayer des montgolfières n'a pas à aller jusqu'en Cappadoce en Turquie. Il y a quelque temps, le pic du festival de montgolfières de Wonosobo coïncidait avec la période des vacances de l'été 2023, à savoir à la fin avril. Pour ceux qui ont raté le festival de montgolfières, vous pouvez visiter un autre festival similaire intitulé Java Balloon Attraction, prévu vers août 2023.
Le chef de la communauté de Ballon Wonosobo, Agam Setyobudi, a expliqué que lors de ce festival, a déclaré Agam, les montgolfières formeraient au moins 4 formations que les visiteurs pourraient voir de toutes les directions. L'attraction de Jaffa Ballon se tiendra au champ Kaliangat à Wonosobo à la mi-août. La Jaffa Ballon Attraction est une tradition de grandes montgolfières traditionnelles aux motifs variés et colorés. Les ballons volent alternativement ou simultanément. L'événement sera également animé par des performances artistiques culturelles, un bazar micro, petite et moyenne entreprise et divers concours basés sur l'économie créative. Les vols en montgolfière à Wonosobo sont devenus une tradition, en particulier lors des célébrations de l'Eid, en particulier l'Eid al-Fitr. Depuis 2006, un festival de montgolfière a lieu. Cependant, il a été interdit car il interférait avec les vols d'avion. Jusqu'à ce que finalement l'idée émerge que la tradition des montgolfières était contestée en étant attachée pour que les ballons ne volent pas sauvagement.
Tak pernah melupakanmu.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois-ci, je vais parler d'une chanson de World Genius. World Genius est un groupe indonésien de musique de danse électronique et de synth pop. Ce nouveau groupe de talent est composé de Reza Octavian, Eka Gustiwana et Gerald Liu. Ce groupe s'est formé en 2016 et a sorti sa première chanson en 2017 avec le titre DPS Uden Pasar. Cette chanson s'inspire de la beauté et de la culture de l'île de Bali. Lorsque l'Indonésie était encore désignée comme hôte de la Coupe du Monde à l'âge de 20 ans, World Genius a été choisi comme musicien qui composerait et chanterait la chanson officielle de la Coupe du Monde à l'âge de 20 ans. La chanson s'intitule Glorious, dans laquelle World Genius collabore avec 3 finalistes de la saison 10 de Indonesian Idol, à savoir Liodra, Tiara Andini et Ziva Magnolia. La chanson contient un esprit jeune et énergique qui correspond parfaitement à l'esprit du tournoi mondial de football à l'âge 20 ans. Même si l'Indonésie a été annulée en tant qu'hôte, la chanson du tournoi composée par des musiciens indonésiens était toujours utilisée par la FIFA. Bon, chers auditeurs, voici Glorious the Red Genius featuring Liodra, Tiara Andini et Ziva Magnolia. Bonne écoute!
This is the time for the show. Flowers blooming on the ground. I walk a thin line. I'm in overdrive, not ready to slow down. One step closer to the sky. There's gasoline in my veins. I'm counting highlights, so electrified. Don't say in my way now. Watch me set this world on fire. Watch me do it with no regrets. You can't hold me back.
Glorious, we say, oh,
Voice of Indonesia.
Of Indonesia, from Indonesia to the world.
Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kali. Sudahlah lepaskan semua, ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi, mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi,
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.